la session, vous devez être maintenant habitué. Et donc, ça doit être le jour où l'on creuse davantage. Pouvez-vous expliquer davantage la distinction que l'on fait entre ce qui est premier dans l'ordre de la vie et ce qui est premier dans l'ordre de l'être? Donc, la distinction entre en philosophie première. Notre vie intellectuelle. notre philosophie européenne, puisque c'est un des sujets qui revient aujourd'hui. On fait paraître des livres sur la philosophie européenne. Ça se vend bien. C'est le sujet à la mode, le sujet de la philosophie européenne. On voit que la philosophie européenne se divise en deux moments. Il y a la philosophie européenne en continuité avec la philosophie grecque, assumée par les pères de l'Église et les théologiens. Or, la philosophie grecque est commandée par Platon, Aristote, et après Aristote, le néoplatonisme. Donc il y a trois grands noms en philosophie grecque.
Intéressant de montrer ça.
autre théologien. Thomas d'Aquin revendique une sagesse philosophique. Encore l'autre jour, je rencontrais quelqu'un qui est un jeune qui cherche vraiment, qui m'a dit, j'ai beaucoup de sympathie pour vous, mais il y a quelque chose que je ne peux pas supporter, c'est que vous dites que la philosophie est une sagesse. Et donc que la philosophie a son autonomie. Alors je lui ai simplement dit, la grâce ne tue pas la nature. La grâce surnaturelle présuppose la nature humaine et donc présuppose l'intelligence. Pour être un vrai croyant, il faut normalement savoir ce qu'on fait. Et on sait ce qu'on fait grâce à notre intelligence. Le croyant doit être intelligent.
Rencontrer dans votre vie quelqu'un de plus intelligent que vous,
dépendance est une aliénation. Eh bien non, toute dépendance n'est pas une aliénation. Il faut comprendre de qui on est dépendant. Si vous êtes dépendant de quelqu'un qui est plus bête que vous, c'est une aliénation. Ça c'est sûr. Et effectivement, ça peut arriver. On voit des gens très intelligents qui tout d'un coup tombent amoureux, follement amoureux, d'une bécasse. Alors là, du coup, vous m'a maintenu un petit peu votre liberté. Ah non, vous êtes plus fort que moi. Il n'y a plus que ça. Ça se voit, on constate ça. Le seul qui ne voit pas, c'est lui. C'est pour ça qu'on dit que l'amour est aveugle, alors que c'est faux. L'amour est aveugle quand, de fait, on aime quelqu'un qui est inférieur à nous et qu'on devient esclave. Humain, voulez-vous, c'est le drame humain, c'est les rapports de notre intelligence et de notre volonté, c'est le drame de notre liberté. C'est quelque chose de très important, ça. Mais je n'identifie pas ma vie, ma liberté. Voyez, c'est ça qui est toujours important à voir. Alors ici, on ne peut pas identifier l'être en nous et la vie. La source de notre être, ce qui est source de notre être, c'est ce qu'on appelle la substance. En grec, parce que le mot substance traduit mal ousia, et rigueur traduisait ousia étance, mais c'est pas un mot français. Alors j'aime mieux mettre le mot grec quand on n'a pas un mot français. On met le mot grec en disant retourner à l'origine. Ousia, c'est la source.
De s'organiser.
psychologue s'intéresse à l'homme vivant et le psychologue désire enlever les obstacles. C'est ce qu'on lui demande, enlever les obstacles. Comment orienter sa vie? Ah, souvent il ne le sait pas. Souvent il ne le sait pas. Je me souviens des dialogues avec mes psychanalystes, ça m'avait beaucoup intéressé de voir quand le... Il me disait que quand le client ou le patient est sur le divan, il y a un moment pathétique où il pose la question « Docteur, croyez-vous en l'homme ?» C'est pathétique. Hein. « Croyez-vous en l'homme ? Est-ce que vous croyez que l'homme est bon ?»
Regardez, il avait très bien compris ça. Alors il m'a dit, j'ai compris, j'ai
rompu avec la méthode et j'ai appliqué ce que vous avez dit. Et j'ai vu que c'était extraordinaire. C'était exactement l'image que vous avez vue. Quelqu'un qui est en train de se noyer, vous lui lancez une bouée de sauvetage, il la prend. Et mon analyse a été beaucoup plus vite. J'ai fait un pas énorme. J'ai dit oui, alors vous découvrez par là que l'homme, tant qu'il n'a pas découvert un but à sa vie, une finalité à sa vie, l'homme est un pauvre type qui fait la planche. Il fait la planche. Alors il descend le fleuve, comme tout le monde le descend.
Se guide par les passions.
troisième lieu, la philosophie du vivant. C'est la philosophie que nous allons voir des trois degrés de vie. Dans l'homme, il y a trois degrés de vie que nous allons voir tout de suite, parce que c'est ça qui est intéressant, qui nous permettra de creuser dans le point de vue de la vie et dans le point de vue de l'âme. Vous précisez ce que représente en tant que... Ah oui, pour le « en tant que », c'est le point de vue que je prends. C'est pour ça que je vous donne l'exemple. Quand vous regardez une petite église romane, vous placez dans des situations différentes. Vous placez en face, vous placez sur le côté, vous placez au transept, vous placez au-dessus. Le « en tant que », c'est l'aspect formel que vous désirez saisir. Quand vous dites « je cherche le premier, ça va », ce qui est « en tant qu'être », je ne regarde que ça, le point de vue de l'exister, le point de vue de l'être. En tant que point de vue, je ne regarde que la vie. Je peux regarder l'homme en tant que responsable. Je peux regarder l'homme en tant qu'un être passionné. L'artiste, quand il regarde l'homme, qu'est-ce qu'il regarde? Il ne regarde pas la même chose que son être. Comment voulez-vous représenter l'être? Vous ne pouvez pas. Il ne regarde pas le point de vue de la vie. Non, il regarde la manifestation de la vie. Et si c'est un critique ou un celui qui fait des caricatures, il n'avait qu'à regarder dans les journaux les caricatures du président de la République. En fait, toutes les périodes de Mitterrand et les caricatures vous montrent le nez qui grandit ou le nez qui diminue, mais c'est le point de vue du critique. Saisir un aspect, vous voyez, le en tant que, saisir un aspect et le mettre en pleine lumière. Son et lumière. Lumière manifeste parfaitement le « en tant que ». Je veux regarder l'origine d'un château de la Loire. Je montre ce qui était au point de départ, puisqu'il s'est ajouté après, puisqu'il s'est ajouté après, puisqu'il s'est ajouté. Mais ça, c'est celui qui veut saisir ce qu'il y a de premier. Le biologiste veut savoir le point de départ de la vie. Quelles sont les choses nécessaires pour que la vie apparaisse ? Je regarde la vie dans son origine. Je prends le point de vue origine. Le philosophe veut regarder la finalité de la vie. L'origine, il sait bien qu'il y a une origine, mais c'est pas ça qui explique le vivant. Ce qui explique le vivant, surtout quand c'est un vivant spirituel, c'est sa finalité, ce pourquoi il est fait. Alors je continue à propos de ce que nous disions hier, parce que c'est quand même très important, cette découverte de l'âme au plan philosophique. Voyez, essayez de comprendre. Vous avez une connaissance de l'âme au niveau des traditions religieuses. Vous avez une connaissance de l'âme au niveau de la foi. Et vous avez une connaissance de l'âme au niveau philosophique. C'est la même âme que je vois sous trois points de vue différents. En tant que croyant, je dis, l'homme est capable de recevoir la grâce dans son âme. Et ça, c'est le croyant. En tant qu'homme vivant dans un climat et un milieu où les traditions religieuses existent, soit les animistes, par exemple, on dira, oui, il y a une âme. Et l'âme, c'est quelque chose de très mystérieux, qui fait que ce n'est pas un animal, qu'on dépasse l'animal, et qu'on est quelqu'un capable de penser, capable d'aimer. Et le philosophe a cherché la racine de l'âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Il sait très bien que cette interrogation est une interrogation qui ne va jamais le satisfaire entièrement. Voilà. Il sait très bien que cette interrogation, il ne pourra jamais y répondre entièrement. Il restera toujours insatisfait. Mais il va d'abord découvrir l'âme existe. Il est nécessaire qu'il y ait une âme. Nier l'âme, c'est ne pas accepter vivant que je connais, l'homme et le vivant, qui a quelque chose d'ultime, et quelque chose de fondamental, l'âme spirituelle, l'âme qui assume le corps, donc qui se manifeste à travers le corps. Mon âme se manifeste à travers tout mon corps, à travers mon petit doigt. Mon âme est présente à travers tout mon corps. C'est en eux, une détermination, source de vie en eux, qu'on peut appeler âme. Analogiquement, c'est totalement différent de l'âme, de l'homme. C'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui, il vaut mieux réserver le mot âme pour l'homme. Mais on peut le dire, ça ne me gêne pas. Si on dit que c'est une âme de chien, une âme d'éléphant, c'est-à-dire une source de vie, d'unité de vie. Parce que chez tous les animaux, quand ils meurent, il n'y a plus d'unité. Ça part dans tous les sens. Et ce qui montre bien que ce qui caractérise la présence de l'âme, c'est l'unité. Et vous voyez, quand dans le corps humain, il y a des parties qui ne vivent plus, qu'on est obligé de couper. C'est terrible. Parce que ça prouve que l'âme n'est pas présente, n'est plus présente partout. Il y a un abandon. Comme si la lutte était tellement forte entre eux. Le mal entre les forces physiques, chimiques et l'âme, que l'âme était obligée de se réfugier. C'est très mystérieux, la mort, et ça reste un mystère. Évidemment, on peut l'analyser biologiquement, mais ça ne me dit rien du tout. L'analyse biotiquement, c'est tout simplement dire les conditions vitales ne sont plus là pour que cet être continue de vivre. Je suis dans l'ordre des conditions. Mais ça ne me dit pas du tout ce qu'est la mort. Et comme personne d'entre nous n'a cette expérience. Mais si Lazare, la résurrection de Lazare, aurait existé à notre époque, on serait venu lui dire, dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu as vécu ? Y a-t-il entre un coma profond et la mort? Un coma profond est complètement coupé de tout le reste. Et puis la mort. Quelle différence y a-t-il entre certains phénomènes d'extase? On est comme coupé de tout ce qui est à l'extérieur et la mort. La petite Marthe Robin disait qu'au début de ses extases, elle était comme séparée de tout. Et qu'à la fin de sa vie, quand elle était en extase, elle était encore présente. C'est curieux. Voilà, tout ça est autour du phénomène de la mort et de la coupure de notre âme capable de réfléchir sur elle-même, sur celui qui est sa source, et de se séparer des autres. On sent ça, on peut faire ça. On peut très bien arriver à cela en appliquant des méthodes très précises. C'est pas simuler la mort, c'est vivre intensément de l'aspect spirituel qui est en nous, de notre âme spirituelle, de l'amour et de cette source cachée qui est en nous. L'âme a une vitalité propre. Alors ça, on le sent bien, elle est source. Elle vit dans le corps, mais elle a une vitalité propre qui ne vient pas du corps, qui est sa vitalité et qui rayonne sur le corps. Et au moment de la mort, l'âme, en quelque sorte, se replie sur elle-même. Toute l'extension sur le corps disparaît, elle se replie sur elle-même pour une vitalité toute spirituelle, toute pure. Je peux préciser ces choses-là, mais je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Et l'expérience de ceux qui disent qu'ils sont vus au moment, à un moment donné, une sorte d'expérience très bien dire oui, c'est possible. C'est très possible. Mais qu'est-ce que ça correspond à quoi? C'est pas l'âme qui quitte le corps. C'est, je crois, un phénomène très particulier de toute ma vitalité qui est sur un point donné et qui me donne cette impression très forte de quitter la vie terrestre et d'entrer dans un autre monde. Je peux faire une sorte d'expérience. Il ne faut pas souhaiter ça. Mais je peux faire une expérience philosophique d'une séparation de mon âme à l'égard de mon corps. On dit que certains philosophes l'ont fait. On dit ça pour Plotin. Plotin, ses disciples ont constaté qu'il avait des extases. C'est-à-dire des moments où il était séparé des autres et qu'il vivait intensément. Et que ça se voyait sur lui, il vivait intensément. Donc tout ça montre cette présence de ce principe de vie qui est en nous. Et aujourd'hui, c'est important de se le rappeler. Dès que j'ai cette conscience, je m'aperçois que je peux tout de suite entrer dans cette tradition philosophique qui me dit qu'il y a 3 degrés de vie en moi. Et ceci, c'est très ancien, c'est les pythagoriciens qui disaient ça. Et on retrouve ça un peu chez tous les philosophes. Il y a 3 degrés de vie en moi. Il y a l'unité, mais ma vie est d'abord une vie je distingue par les opérations. Hein, les degrés de vie se prennent des opérations vitales. Il y a des opérations vitales en moi qui sont fondamentales. Ma vie instinctive. Ma vie instinctive, elle est végétative. J'ai besoin de manger. Vous savez bien, quand l'époux revient de son travail et que malheureusement rien n'a été préparé pour le dîner, pour le souper, il est de mauvaise humeur. Parce qu'il a faim. Et la délicatesse de l'épouse, c'est de donner, comme la lionne, le bon morceau. Et on apprend près des animaux, il y a des choses merveilleuses à apprendre. Et c'est royal, ça. C'est quelque chose de très grand. Il y a la vie végétative, des instincts. L'instinct de la nourriture. Et vous voyez, aujourd'hui, on rééduque l'instinct. On fait des coupes. On ne mange plus pendant un certain temps, ou très peu, pour redécouvrir ce que c'est que se nourrir. C'est vrai qu'on considère que les pays nantis, ils mangent de trop. C'est évident, ils mangent de trop. Ils se tuent en mangeant. Ils se tuent en buvant. Pas de l'eau, mais autre chose. Ils se tuent. Trop de nourriture. On est arrivé ici. Tout le monde mangeait normalement. On pourrait nourrir les pauvres qui n'ont pas de quoi manger. Déséquilibre complet par la vie végétative. Il faut bien le voir. Il y a un déséquilibre complet par la vie végétative. Parce que on ne respecte pas les besoins de la vie végétative de tous les hommes. Alors qu'il y a un droit. Dans la vie végétative, boire et manger, respirer. Non. C'est la respiration qui est le premier mouvement de l'homme, génétiquement. Quand le petit enfant naît, il commence à respirer. De lui-même, jusque-là, il était enveloppé dans un milieu qui était le milieu maternel. Il respire. Et la respiration est nécessaire. Pour vivre, c'est par la respiration que j'ai mon autonomie fondamentale, première. Et c'est quelque chose de très grand, ça, la respiration. Puisque c'est par là que je distingue si l'être vit ou ne vit pas. Je sais bien que maintenant il y a d'autres moyens, mais c'était la méthode ancienne. Ah, dernier soupir, comme on dit. Dernière respiration. À un moment donné, il n'y en a plus. Ça, c'est le signe fondamental de la vie végétative, la respiration, la nourriture, la boisson, les dernières gouttes d'eau qu'on a données à un malade qu'on aime. Il y a l'instinct. Et puis il y a aujourd'hui, je veux dire, dont on parle beaucoup, l'instinct sexuel. Il y a deux instincts qu'on porte en nous. Et alors là, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, vous comprenez. Parce que c'est intéressant de voir la perspective différente. Habit naturel. On a un habit naturel vis-à-vis du Premièrement, l'appétit de la nourriture, de la respiration, de l'oxygène et la boisson. Et l'appétit sexuel, l'instinct sexuel, s'éveille plus tard. Alors, dans l'analyse philosophique, on essaie de préciser ce qui distingue cet instinct foncier premier de l'individu, qui est le boire et le manger, la respiration, de l'autre instinct sexuel, qui n'est pas le boire et le manger, qui est un appétit premièrement pour la jouissance et pour la procréation, fondamentalement, c'est le bien d'être capable, source de vie pour un autre. Alors, c'est là où il y a quelque chose de très important, je crois, à saisir. C'est que pour le philosophe, l'appétit naturel est en vue d'un bien particulier. Et il y a une distinction entre cet appétit foncier du boire et du manger et l'appétit sexuel. Ça se tient, c'est sûr, puisque c'est le même individu. Mais il y a une distinction nette entre les deux. Tandis que pour Freud, l'instinct du boire et du manger et l'instinct sexuel, il y a une continuité. C'est vrai qu'il y a une continuité dans l'ordre de l'exercice, mais pas dans l'ordre de la spécification. Alors il faudrait regarder ça de très près. Et c'est important. Et je crois que c'est très important pour saisir ce que représente l'homme, la vie de l'homme, dans sa vie végétative. Il y a là quelque chose de très radical à essayer de préciser. Tout mon dialogue avec les Freudiens revenait tout le temps à ça. Et je comprends très bien, puisque c'est l'instinct. Alors on parle instinct, les anciens appelaient appétit naturel. Alors l'appétit naturel se distinguait par son objet. L'instinct se prend du côté du sujet et du côté du besoin. C'est pas la même chose du tout, et c'est très intéressant de voir comment on a glissé d'un mot à l'autre. Le mot instinct est assez récent. Tandis qu'au Moyen-Âge, c'était l'appétit naturel. Pour Aristote, c'est un appétit naturel. On a glissé, on a changé cet appétit naturel en instinct pour voir uniquement le besoin. On a le besoin de manger. Il a besoin de manger. Mais il a un appétit qui, à un moment donné, réclame l'aliment, veut l'aliment. Alors c'est très vrai. Cet appétit implique un besoin de boire et de manger. L'instinct sexuel a une finalité et il exprime aussi un besoin. Et c'est ce besoin que regardent avant tout les psychologues, plus que la finalité. Il est quelle heure ?
Est-ce que nous avons bientôt 5, peut-être 5 minutes.
Encore combien de temps ?
5 minutes.
Encore 5 minutes, bon. Vous voyez, il y a ce point de vue-là qui me semble extrêmement important aujourd'hui à étudier au point de vue philosophique. Est-ce que c'est Aristote qui a raison ? Est-ce que c'est Freud qui a raison ? Parce que c'est le point de vue fondamental qui distingue la psychologie freudienne et la psychologie aristotélicienne. C'est intéressant de voir à quel point, vous savez, Aristote dit ceci, qui est une remarque qu'on peut tous faire. La déviation à l'origine implique une très grande différence au terme. Tous les Suisses connaissent les sources du Rhône et du Rhin. J'ai habité suffisamment longtemps en Suisse pour savoir l'intérêt qu'il y avait à aller voir les sources du Rhin et les sources du Rhône. Comme les sources du Nil, c'est toujours intéressant de regarder les sources. Moi, ça m'intéresse de regarder les sources. Et c'est vrai que quand on regarde la source du Rhin et la source du Rhône, c'est très proche. Quand je regarde le cours du Rhin et le cours du Rhône, c'est deux fleuves totalement différents. En spiritualité, en vigne, tout à fait différent. C'est très curieux. Quand on les regarde dans leur parcours, bien je crois qu'on va faire cette application, que quand je regarde la source de l'instinct du boire et du manger, de la respiration, et la source de l'appétit sexuel, de l'instinct sexuel, si je dis qu'il y a deux sources, derrière la caisse. C'est comme celui qui a volé une corde et derrière il y avait faim, de la nourriture, qui est très important, un droit naturel à être nourri. On a un droit naturel. Ce qui fait que quand ce droit naturel n'est pas satisfait, il y a des vengeances terribles. Des vengeances terribles. Parce que le refoulement à l'égard de ce droit naturel, qui est le droit foncier de l'individu à vivre, c'est le refoulement le plus terrible qui soit. Le plus terrible. On devient comme un animal sauvage. Et pour